Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Commence donc avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Un cluster Omicron dans une des écoles à l'ouest de Sydney. Un cluster qui passe à 13 enfants. 3 cas donc de Omicron parmi ces 13. L'OMS qui dit qu'Omicron est désormais détecté dans près de 38 pays. On va le voir. Et en sport, en tennis, la Croatie qui se qualifie pour la finale de la Coupe Davis. Vous le dire en titre, les autorités de Nouvelle-Galles du Sud cherchent à retrouver la source d'un nouveau groupe de variants Omicron dans une des écoles à l'ouest de Sydney. C'est la Regent's Park Christian School où le nombre donc, de cas dans cette école est passé à 13. L'État a signalé aujourd'hui donc pour la Nouvelle-Galles du Sud un total de 325 nouveaux cas de Covid et un décès. Pendant ce temps-là, dans le Victoria, on enregistre 1365 nouvelles infections et 9 décès liés au virus. Le Victoria a atteint 91% de vaccination à double dose pour les personnes âgées de plus de 12 ans. Le Queensland a détecté hier un nouveau cas de Covid-19 avec de nouveaux sites d'exposition qui sont maintenant répertoriés dans le sud de Brisbane. On écoute Yvette Duff, la médecin en chef du Queensland.
We have a new couple from the Gold Coast who have been infectious in the community to up to 13 days. One of those people work at a private aged care facility. We can report all of the staff are fully vaccinated and over 90% of the residents are fully vaccinated, and we are testing everyone in the centre today and we are not moving anyone.
Voilà, donc pour le Queensland, l'Organisation mondiale de la santé affirme que le variant Omicron du coronavirus a maintenant été détecté dans 38 pays à travers le monde. Je vous le disais en titre, la responsable technique de l'OMS pour le Covid-19, Maria Van Kerkhove, a déclaré que la gravité de la maladie allait de tous les stades, de fonction légère à de graves versions donc, de la maladie, et que les enquêtes étaient toujours en cours pour déterminer donc, la dangerosité d'Omicron. On l'écoute.
Initial reports of Omicron came from a cluster of university students. And these tend to be younger individuals, and those individuals tend to present with more mild infection. So there was initial reports that it tended to be more mild, but it's really too soon. Because first of all, everybody who is infected with SARS-CoV-2, regardless of what variant, will always start out with a mild disease. And so maybe it will stop there, but it may stop with mild disease, or it may take some time to develop severe disease. So it's too early for us to really understand severity for Omicron.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Covid pour aujourd'hui. Alors, c'est le plus gros contrat d'avion militaire pour la France de l'histoire, d'après Emmanuel Macron. Un succès français pour le patron de Dassault. Une commande record hier signée entre Paris et les Émirats Arabes Unis. 80 avions Rafale pour un montant de 16 milliards d'euros. Oui, mais voilà, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite sont aussi accusés d'utiliser ces armes françaises dans le conflit au Yémen, là où l'Arabie Saoudite, justement, est soupçonnée de crimes de guerre. Comme nous l'explique Aymeric Éloin d'Amnesty International.
Ce que nous avons documenté dans le cadre du conflit au Yémen, et c'est ça le contexte en fait qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on parle des Émiratis qui ont possiblement violé le droit international humanitaire en recourant à des frappes aériennes et en causant de possibles crimes de guerre. Et c'est la raison pour laquelle nous, Amnesty International, avec d'autres ONG, notamment l'ICCHR basé à Berlin, nous avons saisi le bureau du procureur de la Cour pénale internationale en décembre 2019 pour faire la lumière sur 26 cas de frappes aériennes qui sont autant de possibles crimes de guerre. Donc oui, on est préoccupé. On est préoccupé de voir la France ne pas prendre en considération ces éléments-là et continuer à fournir en armes les Émirats Arabes Unis, et notamment en leur fournissant 80 Rafales, sachant que les Rafales vont remplacer les Mirages fournis par Dassault il y a quelques années et toujours maintenu en conditions opérationnelles par Dassault. Donc, et pour nous, clairement, aujourd'hui, la diplomatie française se résume, on peut le dire, à une sorte de diplomatie des armes où les aspects juridiques attachés aux droits de l'homme, aux droits internationaux humanitaires n'existent plus.
Et c'était Aymeric Éloin d'Amnesty International. Mais malgré donc tout cela, le président français, qui est d'ailleurs en déplacement dans le Golfe, ne boude pas son plaisir. Valérie Gasse.
Emmanuel Macron a en quelque sorte fait le service après-vente du contrat signé à Dubaï avec les Émirats Arabes Unis pour la vente de 80 Rafales.
C'est le plus gros contrat militaire à composantes françaises de notre histoire. Plus gros que les précédents. Et même ceux sur lesquels, à ce stade, il y a des déconvenues.
Une allusion au contrat AUKUS pour la livraison de sous-marins rompu par les Australiens, dont le montant était, selon le président, plus élevé, mais les retombées économiques pour la France moins importantes. Le contrat Rafale, il a pu être conclu grâce à l'excellente relation entre la France et les Émirats arabes unis, intensifiée ces dernières années parce que, selon Emmanuel Macron, les Émirats ont vu que la France était un partenaire solide et fiable. Dans un moment où ils se sont sans doute posé plus de questions sur d'autres partenaires historiques, une phrase prononcée en marge du déplacement et qui fait allusion aux États-Unis. Et aux critiques émises en France contre la signature du contrat, notamment par l'écologiste Yannick Jadot qui a parlé de honte, le président a répondu du tac au tac.
Ce sont des contrats importants pour notre économie, ils créent de l'emploi. Et ils créent de l'emploi en France, parce qu'ils seront produits en France. Et ils permettent de financer l'économie française, donc c'est bon. C'est très bon pour la France. Ce qui est bon pour les Françaises et les Français, je le défends ardemment.
Même à des milliers de kilomètres, Emmanuel Macron renvoie ses adversaires dans les cordes.
Et c'était Valérie Gaspour, RFI. L'Union européenne a été critiquée pour avoir soutenu les efforts nationaux de la Libye visant à endiguer le passage des migrants. C'était dans le passé et elles étaient, tout en aidant les forces des gardes-côtes autoproclamées libyennes qui interceptent régulièrement les navires transportant des migrants avant de les placer dans des centres de détention. 455 millions d'euros, ça fait 735 millions de dollars australiens, ont été envoyés en Libye depuis 2015. L'Union européenne envoyait des fonds au centre indirectement par le biais d'agences d'aide. La ministre libyenne des Affaires étrangères, Nadia Mangouche, a critiqué un système de dissuasion des migrants européens, affirmant que la solution entre guillemets était superficielle et qu'elle ne servait à que les intérêts des États de l'Union européenne. Madame Mangouche dit que la solution demande plus que de l'argent, avec des meilleurs systèmes de police aux frontières nécessaires pour s'attaquer à la source du problème. On l'écoute.
Let's not ignore how problematic the issue is for Libya in the first place. Please do not push the problem in our lap, and please don't point your fingers at Libya and portray us as a country which abuses and disrespects refugees. I repeat, the problem is bigger and multi-layer and very complex. I know you do not like to hear it, but it's the truth. We are tired of beating around the bush and all these superficial solutions being offered. It's time to state the problem and face it.
13h08, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le UNHCR, a déclaré que des niveaux de famine vraiment sans précédent sont attendus en Afghanistan à l'approche de l'hiver. Le porte-parole ou la porte-parole Babar Balbouch a déclaré que près de 23 millions de personnes, soit 55% de la population, sont confrontées à des niveaux extrêmes de faim et presque 9 millions sont menacés par la famine en Afghanistan. Il dit que la situation va empirer à mesure que les températures chutent. La température moyenne dans les régions d'Afghanistan pour l'hiver est souvent aux alentours de moins 25 degrés Celsius en hiver. On l'écoute.
It's a race against time, not only catching up to reach more people, but also finding more people in Afghanistan that need our support. And it's a crisis of hunger and starvation. People don't have enough to eat, and it's very visible.
Voilà donc pour l'Afghanistan. Jen Psaki a déclaré que la Maison-Blanche prendrait des mesures pour se préparer, entre guillemets, à la, au cas où les Russes ou la Russie décidaient d'envahir l'Ukraine. La Russie a nié à plusieurs reprises ces accusations, mais le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui d'ailleurs a rencontré le secrétaire d'État américain, c'était le 2 décembre, a déclaré que les États-Unis avaient menacés de nouvelles sanctions. On écoute Jen Psaki.
And we want to make sure that we are prepared. We know what President Putin has done in the past. We see that he is putting in place the capacity to take action in short order. And should he decide to invade, that is why we want to be prepared and in an area we have expressed serious concern about. So what he means by a group of us, a package, is there's a range of tools at our disposal. Of course, economic sanctions are an option, but we are going to do that in coordination with our European partners, with Congress.
Voilà donc la porte-parole de la Maison-Blanche sur la situation entre la Russie et l'Ukraine. Alors selon les autorités ukrainiennes, il y aurait 94 000 soldats russes mobilisés aux abords des frontières. On écoute Joe Biden, le président américain.
Je suis en contact constant avec nos alliés en Europe et avec les Ukrainiens. Le secrétaire d'État et le conseiller à la sécurité nationale sont impliqués au maximum. Et ce que je fais, c'est de mettre en place ce qui, je crois, sera un ensemble complet et significatif d'initiatives pour qu'il soit très, très difficile pour M. Poutine d'aller plus loin. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe en ce moment.
Voilà, donc les propos traduits du président américain Joe Biden. D'ailleurs, on reste avec la Russie et le Facebook russe qui passe sous contrôle du Kremlin. VK a été racheté par deux entreprises très très proches de Vladimir Poutine. Anissa El-Jabri.
Gazprom d'un côté, mais surtout Sogaz de l'autre, les actifs du Facebook russe sont désormais bien encadrés et dirigés. Plusieurs médias russes l'ont annoncé dès vendredi matin. Le nouveau PDG de VKontakte s'appelle Vladimir Kirienko, le fils du chef adjoint de l'administration présidentielle, Sergueï Kirienko. Leader des réseaux sociaux en Russie, le nombre d'utilisateurs mensuels de VKontakte est estimé à 100 millions dans le monde, 72 millions de Russes, un peu plus de la moitié de la population. Ces dernières années, le réseau social avait déjà connu une forte croissance et suscité les appétits. En 2014, le FSB avait demandé à son fondateur Pavel Durov de transmettre les données des utilisateurs. Après avoir refusé, il avait quitté le pays. Pavel Durov, qui est aussi le fondateur de la messagerie Telegram, vit depuis en exil. L'autre enseignement de ce rachat tient à l'actionnaire désormais principal. Sogaz devient ainsi le plus grand acteur du marché des médias russes. Son groupe inclut notamment plusieurs chaînes de télévision et un quotidien.
13h12, on fait un beau de sport avant de conclure ce journal. La Croatie qui a atteint la finale de la Coupe Davis après que Nikolaj Metkić et Mate Pavic donc battent Novak Djokovic et Filip Krajinovic sur le score de 7-5, 6-1 lors du match décisif en double donc pour donner la victoire à la Croatie 2-1 face à la Serbie. Les Croates affronteront dimanche l'Allemagne ou la Fédération de tennis de Russie qui se rencontrent donc dans l'autre demi-finale du handball et les Françaises qui ont fait une belle entrée dans le mondial en Espagne en battant l'Angola sur le score de 30-20. On écoute le sélectionneur national, Olivier Crumples.
C'est toujours compliqué de commencer un mondial face à une équipe atypique qu'on ne connaît pas beaucoup. Il y a eu de très bonnes choses et de beaucoup moins bonnes. Mais la défense s'est montrée solide, bien aidée par Laura Gloser qui a surnagé sur ce match. On a eu beaucoup de ballons en montée de balle, c'est ce qu'on voulait. On sait qu'ils sont extrêmement fragiles sur les contre-attaques montées de balle. J'aurais bien aimé mieux jouer en attaque. Il faudra mieux jouer que ça en attaque contre les équipes solides européennes. Mais à chaque jour suffit sa peine. Et ce qui est très important, c'est qu'on a gagné 10 buts. Ce qui nous protège en cas de goal average à 3 avec Angola et un autre adversaire. C'est tout bénéfice en termes de résultats.
Voilà donc pour le mondial de handball en Espagne. Allez, cours d'œil météo pour cet après-midi en Australie. À Perth, il fera 33 degrés. Adélaïde, 24. Melbourne, 19. À Hobart, il fera 15. Canberra, 25. Sydney, 23 degrés. Brisbane, 31. Cairns, 34. Et à Darwin, il fera 35 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, un cluster Omicron dans une des écoles à l'ouest de Sydney. Le cluster global passe à 13. Il y a 3 cas d'Omicron parmi ces 13 élèves. L'OMS dit que Omicron est maintenant détecté à travers 38 pays. Et en sport, on vient de le voir, la Croatie qui se qualifie pour la finale de Coupe Davis et la belle entrée dans le mondial des Françaises de handball, 30-20 contre l'Angola.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.